Bah, déjà, de mon côté, du côté de Vignon et du côté de toutes les personnes qui pourront voir cette interview, merci beaucoup d'être là ce soir, de vous prendre du temps, de pouvoir discuter avec nous, de pouvoir échanger. C'est vraiment un énorme privilège. Et voilà, j'ai vraiment hâte de pouvoir un peu parler avec vous et en apprendre un peu plus. Et donc, merci, merci.
Avec grand plaisir.
J'aurais envie de dire. Autant commencer par le vif du sujet. Vous êtes en WRC depuis 2012, passé par Citroën, M Sport et maintenant Hyundai. Moi, je voulais déjà savoir comment en 10 ans, votre relation au sport, au rallye a changé, si elle a changé, bien évidemment.
C'est une bonne question. Je ne sais pas si j'ai la bonne réponse à ça ou s'il y a vraiment une bonne réponse, mais c'est vrai que voilà, au fur et à mesure des années, forcément, la relation change. Tout part d'un rêve d'enfant. Quand j'ai été jeune, voilà, où depuis mes 4-5 ans, je savais que je voulais devenir pilote de rallye. Rien d'autre. Pilote de rallye, c'était ça ce qui m'intéressait. Malgré la proximité du circuit de Spa-Francorchamps ou quoi que ce soit, j'ai toujours voulu faire du rallye. Donc, quelque part, on n'a qu'un objectif, c'est de réaliser son rêve. Une fois obtenu cet objectif de devenir pilote de rallye, j'ai rapidement, même dans les petites catégories, hein, mon rêve était quelque part réalisé, mais voilà, on prend de plus en plus de goût et quelque part, il y a une certaine motivation qui est venue, qui m'a poussé à donner le meilleur de soi-même, de changer complètement ma vie, hein, parce qu'à l'époque, je faisais 87 kilos et j'étais gros, en gros. Mais j'étais plus gros qu'aujourd'hui. Je ne faisais pas de sport. J'allais le vendredi, samedi, dimanche faire la fête avec mes amis. Et j'ai tout laissé tomber d'un jour à l'autre et je me suis consacré à faire ma carrière pour réaliser mon rêve et devenir encore, d'aller plus loin que mon rêve d'enfant. Après, c'est devenu un travail. Et aujourd'hui, c'est toujours un travail, mais avec certains côtés négatifs qui me font de moins en moins plaisir aujourd'hui. Tout simplement, les préparations en amont, les reconnaissances, sont tous des choses qui forcément usent à la durée parce que c'est des choses extrêmement importantes, extrêmement intenses. Ce qui demande beaucoup de concentration. Donc, oui, avec le temps, ben, quelque part, je reste conscient que j'ai réalisé mon rêve. Je reste conscient que ça m'a permis de beaucoup de choses, de faire ce que je fais aujourd'hui. Mais on ne peut pas dire qu'il y a beaucoup de choses qui font de temps en temps quand on réfléchit à ce que, voilà, est-ce que tout l'effort, vaut la peine. Aujourd'hui, je dis encore oui. Peut-être dans 2, 3, 4 ans, je dirais non et je consacrerai ma carrière à autre chose.
Moi, j'ai l'impression qu'il y a une certaine, pas une lassitude, mais une certaine habitude qui s'est installée, une certaine routine. Donc, comme si ce peps, ce qui rend les débuts si pétillants, évidemment, après 10 ans, on est habitué. Donc, voilà, ça s'est un peu tassé. Et, ouais, je peux concevoir que ce n'est pas toujours très très simple de se forcer à continuer ou de faire toutes les démarches préalables qui sont pas toujours les plus fun.
Ben, je dirais que pour être très honnête, oui, c'est un peu ça. Par contre, dès que je mets le casque et la compétition commence, l'arnaque est toujours là. On veut faire le meilleur. Voilà, je pense que on pousse tout le monde dans notre équipe à donner son maximum. On ne lâche jamais rien. et on continue. Tant que ça, c'est là, je pense que voilà, ça vaut la peine de continuer. Et tant que je m'amuse aussi, parce que c'est important aussi, je continuerai. Mais il est vrai aussi que quelque part, on est devenu plus réaliste au fur et à mesure des années, avec l'évolution de la société aujourd'hui, l'évolution qui du monde entier, l'image des sports moteurs, etc. Quelque part, on est devenu plus réaliste et aussi conscient que voilà, on pourra peut-être pas faire ça toute notre vie et que il y a certainement des choses plus importante dans la vie que de faire ce que je fais aujourd'hui, même si pour moi, faire du sport automobile, ça a été ma vie. Ma vie, elle tourne autour de ça. Et même en dehors de rallye, ben, je fais encore du sport automobile. J'ai une société qui travaille dans le sport automobile. Mais là, à chaque fois, hors de pression et avec uniquement le plaisir.
Vous avez déjà dit pas mal de choses sur lesquelles j'aimerais bien rebondir. Immédiatement par la suite, mais j'aimerais bien peut-être prendre une trame chronologique, ce sera peut-être plus simple.
Oui.
Comme vous l'avez dit, vous venez des cantons germanophones, province de Liège, évidemment, on fait le lien à la proximité de Spa. Pourquoi le rallye, pourquoi ce choix qui peut éventuellement étonner, sachant évidemment qu'on va là en Belgique, les grands pilotes qu'on a, c'était avant tout des pilotes de Formule 1, je pense au X, je pense au Button. Pourquoi le rallye, comment ça s'est fait, d'où cet amour vient, des éventuelles influences des pilotes préférés qui vous auraient marqué ou voilà. Le rallye en soi.
Non, je pense que c'est tout simplement par le fait que mon meilleur ami d'enfance, le papa de mon meilleur ami d'enfance et le mien, ils allaient régulièrement voir des rallyes en Belgique. Puis ils ont commencé à nous amener sur des rallyes, des petits rallyes régionaux dans la région de Saint-Vit et en Wallonie. Et ça a toujours été plus spectaculaire que d'aller voir une course sur le Grand Prix sur la piste de Spa-Francorchamps, parce que le rallye c'est spectaculaire, il y a des accidents, on change d'endroit d'une spéciale à l'autre. La météo rendait la course souvent super excitante avec les changements de météo qu'on pourrait avoir. Et puis, ça reste un sport très, très spectaculaire. Et c'était un sport encore hyper populaire à l'époque. On a quand même eu des grands pilotes comme Bruno Thierry qui venait de la région germanophone, qui a vécu dans la région germanophone. On a eu Freddy Loix. On a eu à l'époque d'autres pilotes qui sont participés à des manches au championnat du monde. Donc, ça m'a toujours plus intéressé que le circuit.
Après, ouais, le rallye a vraiment eu un boom des années 90, début des années 2000, puis c'est retombé un peu. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a toujours un engouement autour. Et il ne faudrait pas beaucoup pour que ça réexplose. Je me dis, il suffit que Netflix fasse une série sur le rallye. Et là, ça repart et ça reboom comme la
Formule 1. On ne demande que ça aux promoteurs aujourd'hui. C'est que la Formule 1 a pris une énorme boost avec les séries Drive to Survive en Formule 1. Et on a rencontré des réalisateurs pour Netflix il y a 2 ans en arrière au Rallye de Sardaigne. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas eu lieu, mais il y aura effectivement des belles histoires à raconter et on pourrait faire autant le show que ce qu'ils font en Formule 1, si c'est ça ce que les gens veulent voir.
De toute façon, même si le show n'est pas nécessairement sur la piste, je pense que Netflix arrivera à trouver une manière de tout mettre ensemble.
Oui.
Vous avez parlé du fait de voyager, avoir différentes conditions météorologiques, différentes pistes, que ce soit tarmac, sable, neige. Personnellement, pour vous, c'est quoi votre terrain de jeu préféré ou votre rallye préféré? Parce que je sais, il disait qu'il détestait la Grèce, que l'Acropole, il n'aimait pas du tout. Donc, est-ce que c'est un peu similaire pour vous ou...
Non, je... En termes de surface, j'aime bien les courses sur asphalte. C'est les courses les plus intenses. C'est là qu'il est plus difficile à faire des grosses différences. On a souvent comme les conditions équivalentes pour toutes les pilotes. Que sur la Terre, ça évolue fortement entre chaque passage de voiture. Donc, j'ai toujours bien aimé les rallyes sur asphalte. Mais la particularité le plus grand nombre de manches dans l'année, c'est sur la Terre. Donc, j'ai beaucoup appris ces dernières années. Je suis compétitif sur tous les terrains. On en a gagné sur la neige, sur la terre, sur l'asphalte. Mais voilà, je me réjouis à chaque fois de retourner sur l'asphalte. Maintenant, en termes de rallye, j'ai toujours bien aimé le Mexique parce que c'est un rallye atypique. C'est une région complètement différente de celle-ci. De celles qu'on connaît en Europe. Le paysage est magnifique. Pareil pour l'Argentine. Donc, c'est des aventures plus que des rallyes normaux. Mais voilà, j'ai eu la chance d'avoir fait la Nouvelle-Zélande en 2012. Et on y retourne cette année. Donc, c'est des rallyes dont généralement, on garde une bonne mémoire. Parce que voilà, c'est une aventure. Mais sinon, j'aime. Il n'y a pas de rallye que je déteste réellement. Si ce ne serait pas les rallyes typés route rapide, comme l'Estonie, par exemple. D'ailleurs, c'est le prochain rallye pour nous. Où voilà, j'ai jamais été aussi à l'aise que sur toutes les autres rallyes. Parce qu'il faut aller très très vite, il faut prendre beaucoup de risques, tout simplement. Et à haute vitesse, donc c'est pas ça ce que je préfère.
Ouais, je me doute que d'aller au Mexique ou en Nouvelle-Zélande, surtout en Nouvelle-Zélande, les paysages que vous devez faire avec en voiture, ça doit être tout bonnement incroyable. Je me doute que ça
À fait.
doit être dingue. Vous avez parlé de rallyes qui étaient au calendrier, qui reviennent notamment cette année. C'est un peu le cas de Ypres, qui était au calendrier l'année passée pour la première fois, qui revient cette année. En tant que pilote belge, même si bon, c'est pas votre région en tant que telle en Belgique, vu que c'est plus en Flandre, mais ça fait quoi d'avoir son rallye national, de voir des drapeaux belges, de savoir que c'est presque que des Belges qui sont là. Ça fait quoi de rouler en Belgique? Le rallye d'Ypres, ça signifie quoi pour vous? Et enfin, est-ce que vous appréciez le rallye d'Ypres en tant que tel ou c'est plus moi?
Ouais, non, j'avoue que là, c'est un énorme privilège qu'on a depuis l'année passée. Cette année, ce sera probablement la dernière fois qu'il sera encore au calendrier. Mais voilà, de pouvoir le faire et en plus de pouvoir le gagner comme l'année passée devant nos supporters et puis les amis, la famille, c'est un énorme privilège. C'est un réel plaisir pour nous. Après, quand on est dans la compétition, c'est un rallye comme tous les autres. La préparation est la même chose. On est concentré autant que sur toute autre manche. Et on a le même objectif, c'est toujours de délivrer du mieux possible. Si ce n'est que là, on espère encore plus que partout ailleurs de remporter le rallye. Parce que c'est ça qui rend l'histoire complète, quelque part. Pas seulement de participer, mais de le remporter. On a réussi l'année passée. Ce sera l'objectif cette année également. Mais oui, j'adore ces moments-là. Même si, comme vous l'avez dit, le rallye, il est à 300 km de ma région natale. Et le rallye d'Allemagne de l'époque, il était seulement à 80. Donc, mais bon, j'ai toujours un bon feeling avec ce rallye. Ça nous a réussi l'année passée et j'espère que ça le sera encore cette année.
Justement, parlant un peu de Belgique, vous êtes aussi passé par le RACB à l'époque. Qu'en est-il maintenant? Vous avez encore de quelconques liens avec le RACB? Vous communiquez encore? Comment il y a eu des premiers contacts? Est-ce que ouais, il y a encore des contacts? Et qu'en est-il de la situation niveau rallye en Belgique? Parce que oui, on a Yves, mais y a-t-il des jeunes pilotes qui suivent? Avez-vous un rôle de mentor?
Ben, du contact, il y en a toujours avec les RACV. Je suis toujours, je soutiens toujours le RACV National Team, la détection des jeunes talents. J'en ai encore participé plusieurs fois les dernières années. On a toujours un groupe WhatsApp avec toutes les personnes qui sont passées par le National Team. On garde contact, on suit ce que font les autres. C'est devenu extrêmement dur, spécifiquement parlant pour le rallye, pour la détection des jeunes talents, de trouver des talents et puis de les promouvoir pour aller plus loin. Parce qu'aujourd'hui, la situation économique fait qu'un jeune n'a plus, comme ça a pu être le cas 10-15 ans en arrière, on avait 2, 3, voire 4 saisons pour prouver son talent. Aujourd'hui, on parle plutôt de 4, 5, 6 rallyes pour prouver son talent. S'il y a un petit espoir, on aura peut-être encore quelques rallyes l'année d'après, mais si on ne concrétise pas, c'est fini. Il n'y aura aucun constructeur qui viendra sonner à la porte pour soutenir un jeune pilote à l'époque qu'on vit aujourd'hui. Donc, c'est devenu très, très difficile de promouvoir des jeunes pilotes. Mais la fédération met malgré tout toujours en place un volant, que ce soit circuit ou rallye, ou encore comme cette année, des pilotes féminines de rallye. Donc, je trouve que c'est une belle initiative. Je soutiens ça. Mais honnêtement parlant, on sait que les chances pour que les gagnants du volant soient un jour au plus haut niveau sont très, très faibles.
Vous avez parlé justement des difficultés pour les jeunes. Je ne sais pas si vous le savez ou si vous avez une idée de prix, mais je sais qu'ils disent souvent que pour tout ce qui est Formule 1, ils disent que le karting, c'est 300 000 euros une année complète, la Formule 3, c'est 1 million, la Formule 2, c'est déjà presque 3 millions. Au niveau d'ordre de prix en rallye, c'est similaire ou c'est, enfin, vous avez une...
En karting, on est un peu en dessous des chiffres quand même, mais c'est vrai que ça a pris des mesures démesurées. En rallye, c'est assez particulier. On peut y arriver avec peu de budget. On en aura toujours besoin, dans n'importe quel cas, et ça a été le cas chez moi aussi, avec des gros investissements pendant quelques années. Après on a un avantage en rallye, c'est que le pilote fait une grande part du succès. Ça veut dire que même si la voiture elle est un peu moins bonne, on arrive à obtenir des bons résultats, très simplement parce que la prise de risque est un facteur qu'il ne faut pas négliger en rallye et qui peut de temps en temps compenser un manque de performance de la voiture. Le balayage, l'effet du balayage et la position de départ lors des rallyes sur terre souvent aide à ce qu'on peut faire un bon résultat malgré que la performance ne soit pas la meilleure. Et puis la météo aussi. Nous, quand il pleut, on peut se retrouver dans une spéciale dans la pluie et que les autres participants qui partent derrière aille la route à nouveau plus sec ou l'opposé. Ceux qui partent devant ont la route sec, ceux qui viennent un peu plus loin ont la route trempée. Donc, ça peut souvent changer les classements. En circuit, si la voiture ne marche pas et qu'on est le meilleur pilote du plateau, on ne fait rien. Et on en a encore la preuve cette année avec Hamilton qui gagnait tout. Aujourd'hui, sa voiture n'est pas au point. Il a autant de volonté qu'il peut avoir, il n'arrivera pas.
Justement, vous parlez de cette prise de risque. Comment vous le vivez, le fait de mettre votre vie en danger? Enfin, je pense que vous ne le voyez pas comme ça.
Non, Si je dis prise de risque, je ne parle pas de mettre en danger notre vie. Une prise de risque, ça peut être d'aller jusqu'à diminuer les pressions de pneus pour aller chercher de la performance, mais le risque de crevaison, il est forcément plus élevé. Ça peut être un choix de pneus offensifs. On peut partir avec une roue de secours au lieu de deux pour certaines boucles, en sachant que l'usure va être à la limite, mais si ça passe, ben, on a eu 30 kilos en moins à balader pendant toute une boucle. On peut de temps en temps attaquer un peu plus, en sachant que voilà, on est sur le fil du rasoir et on peut se retrouver à aller un peu large, à aller taper une pierre dans une corde et d'avoir une crevaison ou abîmer quelque chose sur la voiture. C'est ça les prises de risque. Je pense qu'en rallye, quand on parle de prise de risque, c'est ça. On ne parle pas de partir comme un débile dans une spéciale en sachant qu'il y a 0,1% de chance que je sois à l'arrivée de la spéciale. Non, c'est vraiment des prises de risque calculées.
Il y a quand même toujours cette dimension du danger qui reste omniprésent. Est-ce que vous y pensez? Parce qu'il y a, même si c'est pas fatal, on a quand même vu des accidents plus ou moins graves, plus ou moins fréquents. Vous en avez fait là par moment, mais est-ce que vous y pensez
Quand je négocie mon salaire, oui, je le fais savoir à mon employeur. Réellement, non, on n'y pense pas. Je veux dire, le danger, il est là, mais il fait partie de ma vie depuis, je pense que depuis que je peux courir, le danger, il est avec moi. Et j'ai toujours fait des choses extrêmes, j'ai toujours aimé les sensations fortes. Donc, que ce soit en rallye ou dans n'importe quelle autre discipline ou d'entraînement, le risque, il est là. Mais il ne m'a jamais dérangé. Et jusqu'à présent, il ne me dérange pas du tout. Je me sens quand même assez en sécurité dans ma voiture de rallye. Et je veux dire, je préfère rouler à 200 dans les chemins de terre dans ma voiture de rallye que d'être à 120 sur l'autoroute dans une petite voiture. Donc, je pense que je suis plus safe dans ma voiture de rallye.
Ça se tient, ça se tient. Justement, en parlant des voitures de rallye, pour commencer, on avait parlé justement de votre relation par rapport au sport qui avait changé. Les machines ont changé aussi maintenant au rallye. Ça fait 2-3 ans qu'on est repassé sur des vrais monstres. Enfin, c'est formidable la puissance que ça développe. Vous, comment vous percevez les changements dans le rallye? Comment pensez-vous des améliorations ou des évolutions plutôt? Et que vous pensez-vous des voitures justement maintenant qui sont juste des monstres et qui rappellent le groupe B de l'époque?
Bah, écoutez, bah, on a eu de la chance d'avoir un gros changement réglementaire sur la réglementation technique en 2017, avec des nouvelles voitures qui, papier, étaient des voitures de rêve hein, et qui l'ont d'ailleurs aussi bien lorsqu'on pouvait les piloter. Plus de puissance, des diffs centrales, beaucoup plus d'aérodynamique, des voies plus larges, les palettes au volant, boîte 6. Donc, c'était vraiment des belles voitures. Aujourd'hui, on est repassé à une réglementation technique plus réglementée par rapport comment, aide au pilotage, je veux dire. Quand je parle d'aide au pilotage, ce n'est pas des traction control et du ABS, mais c'est moins d'aérodynamique, donc moins de stabilité, plus de diff central, donc une voiture qui est vachement plus rigide et qui demande plus d'engagement du pilote pour la faire rentrer dans les virages. Les différences entre sous-virage et sur-virage sont plus grandes, donc la voiture est un peu plus nerveuse. On a moins de débattement de suspension, donc dans le bosselet, on doit faire plus attention. Il y a un tas de choses qui ont changé et qui, pour mon appréciation, sont un pas en arrière, clairement. On a fait quand même quelques pas en avant sur certaines choses. On a un châssis tiboleur aujourd'hui, donc ça nous donne une certaine liberté sur les géométries qui nous ont refait gagner un peu de performance de ce qu'on avait perdu sur papier. Il y voilà, on a le kit électrique qui nous fait gagner quand même beaucoup de puissance lorsqu'il est actif. Donc, à la fin, les voitures vont toujours très, très vite. Aussi vite, voire un peu plus vite que les précédentes. Mais je m'amusais plus avec les anciennes voitures, ça c'est sûr, parce qu'elles étaient plus abouties dans tous les détails.
Parlant du fait de s'amuser plus avec des anciennes voitures et des réglementations qui changent, personnellement, c'est quoi vos influences, vos pilotes préférés à l'époque? Et vous avez eu l'occasion de tester des plus vieilles voitures de rallye. Je parle, ça peut aller des années 70 à justement des voitures de groupe B, à des voitures d'il y a 10 ans ou quoi.
Pilote préféré, j'en avais pas vraiment. Je jouais comme tout le monde à la PlayStation à Colin McRae Rally. Et c'était probablement la plus grosse star du rally de l'époque. Est-ce que j'ai conduit des voitures? Oui, j'ai conduit quelques voitures, mais principalement des Ford Escort. J'ai conduit un petit peu des Porsche, des anciennes Porsche, toujours sur les rallyes historiques. J'ai fait un rallye en Peugeot 104 ZS. Voilà, c'était pour le plaisir, lors des Legend Boucles de Bastogne et de Boucles de Spa. Récemment, j'ai acheté une Peugeot 306 Maxi, donc une voiture des années 2000, pour voir un peu ce que ça donne aussi. Donc oui, j'adore rouler les vieilles voitures, même si comparé à ce qu'on a aujourd'hui en termes de pointe de vitesse, ça va beaucoup moins vite, c'est beaucoup moins abouti, mais on s'amuse quand même.
Vous venez de mentionner les boucles de Bastogne. J'ai eu l'occasion d'y aller à l'une ou l'autre prise à l'époque. Justement, ça fait quoi de faire des rallyes en compétition, tout simplement des rallyes plus légers dans l'esprit? Ça fait quoi de se mesurer à des pilotes semi-pro ou amateurs, de pouvoir aussi prendre le temps, je suppose, de parler avec des personnes?
Ouais, c'est justement, c'est ça, c'est qu'on est dans un esprit beaucoup plus relax, où on a zéro pression et qu'on essaye de... On y va pour s'amuser, tout simplement. Moi, quand je fais des rallyes comme ça, comme les boucles de Stone, le résultat, quelque part, ne change pas grand-chose pour moi. J'aime toujours donner le meilleur de moi-même et d'aller au plus vite que je peux et de respecter le règlement pour faire du mieux possible, mais que j'aurais fait centième ou premier, je veux dire, ça m'aurait pas vraiment touché, parce que avant tout je voulais m'amuser et de faire le show aussi pour les nombreux spectateurs qui y sont. Donc voilà, j'adore cette atmosphère. Et voilà, ça me permet aussi d'être un peu plus proche du public et en parler un peu plus avec eux, parce que sur les manches du championnat du monde, un, c'est très compliqué, on n'a pas beaucoup de temps. Deux, on est dans le stress, dans la pression. Et trois, personnellement, j'ai pas l'envie de parler beaucoup avec les gens, parce que je sais que derrière il me reste 3 heures de vidéo le soir à faire pour préparer le lendemain, et on a cette impression de ne pas pouvoir perdre du temps et d'aller de l'avant. Donc, j'avoue que alors sur les manches du championnat du monde c'est compliqué, que sur les autres manches j'essaye vraiment de prendre le temps.
Comment on change cet état d'esprit, parce que je me dis faire les boucles de Bastogne un samedi et la semaine d'après aller s'opposer à des à l'époque Loeb, Ogier, Tanak. Comment on rechange justement? Comment vous faites pour inverser ce switch?
C'est très facile, parce que l'environnement est tout à fait différent. Je veux dire, quand je vais faire un rallye comme les boucles, j'arrive, j'aide à préparer. S'il faut, donne un coup de main à l'assistance. Quand j'arrive en championnat du monde, dès que je quitte la maison, tout est organisé par l'équipe. Que ce soit le billet d'avion, le transfert vers l'hôtel, je saute dans une voiture de reconnaissance avec une équipe d'assistance qui nous suit toute la semaine. Voilà, j'ai un vrai suivi. En plus, mon copilote, qui est 100% professionnel, a préparé tout de A à Z. Donc, je suis sans instruction et moi, je me concentre sur mon boulot de prise de notes et mon pilotage et la mise au point de la voiture pour qu'elle soit au mieux pour la course. Donc, on est tout à fait dans un environnement différent, beaucoup plus professionnel, beaucoup plus pointu, avec un timing, je veux dire, presque à la minute, pendant une semaine, pardon. Donc, c'est facile de changer d'une course à l'autre.
Justement, vous avez parlé de votre copilote. Vous avez changé cette saison, début de la saison. Je ne vais pas revenir sur le pourquoi, mais ça vous regarde, vous. Et ça fait quoi d'avoir changé, justement, de passer de là à un autre copilote? L'adaptation, c'est simple ou qu'est-ce qui fait la différence entre le nouveau copilote, l'ancien copilote?
Écoutez, j'ai effectivement vécu une période très, très difficile, très, très compliquée au début de l'année passée parce que tout s'est fait en moins de 5-6 jours. Donc, c'était une période compliquée, d'autant que, voilà, on avait beaucoup de souvenirs ensemble avec mon ancien copilote. On a vécu beaucoup de belles choses. Mais quelque part, voilà, il y a eu un couac et la décision est rapidement tombée. Je me suis retrouvé avec un copilote avec lequel je n'avais jamais, jamais roulé ensemble au premier rallye. Et j'avoue que le début de saison a été compliqué. C'est ce qui se comprend, hein, parce que lui non plus, à part avoir été une fois ou deux avec un de mes coéquipiers dans une WRC, il n'avait pas l'habitude et je pense qu'il était le premier surpris de la vitesse et puis de l'importance du détail, de soigner les détails qui sont très très importants dans notre sport à ce niveau-là. Mais on a fait tous les efforts, j'ai pris énormément de temps avec lui pour progresser, pour l'aider et on a travaillé sur énormément de choses pour progresser. Ce n'est pas seulement s'adapter et de faire confiance au copilote. C'était sa langue maternelle n'était pas le français, donc il fallait qu'il prenne des cours. Il fallait qu'il trouve la confiance en moi, qu'on trouve le bon rythme dans les spéciales. Mais en dehors, toute l'organisation, préparation des manches, il fallait qu'il recopie toutes les notes des années précédentes. Et puis, on avait un problème de communication dans la voiture avec l'intercom qui n'était pas adapté à sa voix. On a pris des mois et des mois à travailler sur le système d'intercom. Donc, il y a eu un tas de choses et ça a été très éprouvant. Mais on a réussi. Aujourd'hui, ça fonctionne très, très bien. Et je dois dire que, voilà, je me sens très à l'aise avec lui dans la voiture. Il y a une bonne entente, on fait notre boulot au mieux qu'on peut et voilà, il n'y a rien à dire.
Bon, un peu comme vous l'avez fait, et pour terminer et conclure, vous auriez des mots ou des conseils que vous donneriez aux jeunes, que ce soit des jeunes sportifs, des jeunes pilotes, des étudiants qui justement ont besoin de mots pour motiver. Est-ce que vous avez quelque chose que vous aimeriez bien dire, qui vous a toujours forcé à continuer et qui vous a toujours donné de la force?
Oui, je pense qu'il y a plusieurs choses qui sont très, très importantes. La première chose, c'est de suivre son rêve, tout simplement, sa conviction, essayer d'aller jusqu'au bout. Il faut faire beaucoup, beaucoup de sacrifices. Mais quand on a ce sentiment en soi qu'on peut y arriver, ça vaut la peine de le faire. Tous ces sacrifices, parce que ça va payer un jour ou l'autre. Tous ces grands patrons de sociétés, etc., qui sont lancés dans le truc, ou tous les jeunes aujourd'hui qui font des startups, bah, ils sentent cette conviction, ils se lancent, malgré tous les risques qu'ils doivent prendre, hein, financièrement ou autre. Et ça paye quand même souvent. Il y a beaucoup de gens qui abandonnent au milieu du chemin et c'est surtout à ceux-là que je dis qu'il faut continuer à se battre. encore aujourd'hui, à mon stade, je veux dire, on a même le meilleur exemple, c'est David Goffin aussi. Voilà, on a des hauts débats. Il y a des périodes de bas qui durent parfois très, très longtemps. Il faut se battre pour en sortir. Il faut vraiment se battre. Il ne faut jamais rien lâcher et tout donner. Et ça a toujours été mon conseil aux jeunes d'aller de l'avant. Oubliez ce qui est derrière, oubliez les critiques et tout ce que les gens, les voix méchantes pourront lire sur vous. Laissez ça derrière vous, ne pas se laisser perturber et aller de l'avant. Et ça a toujours, d'ailleurs, pour moi, est un énorme avantage d'être belge, mais d'être germanophone, parce qu'on ne regarde pas la télé belge, on ne lit pas les journaux belges, et on regarde la télé allemande et on lit la presse allemande. Donc, ils ne parlaient pas de moi. Et j'ai jamais vu ce qui aurait pu se dire sur moi ou pas, donc ça m'a jamais perturbé. Et je pense que c'était une grande force déjà de ma part, mais aussi un grand avantage que j'avais.
Bah, du coup, j'aimerais bien vous dire vielen Dank für diese Interview. C'était vraiment un réel plaisir de pouvoir parler avec vous, de pouvoir s'échanger. C'était un immense honneur. Et voilà, merci à vous et aussi à votre équipe Com de nous avoir donné cette possibilité, parce que je sais que les semaines sont bien remplies. Voilà, je voulais juste vous dire merci.
Avec plaisir. Il n'y a pas de souci.
Je vous souhaite beaucoup de courage pour la suite. On va continuer à suivre le WRC cette année. Et j'espère qu'à la fin de la saison, ce titre sera enfin là, parce qu'on le veut tous.
C'est mal embarqué, mais voilà, on y travaille. On passe pas mal de temps pour le moment pour aller dans la bonne direction, et je pense que voilà, d'ici peu de temps, il devrait y avoir du gros projet.
Merci beaucoup et
merci à vous.
À la suite.
Merci, au revoir.
Au revoir.